7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, du lundi au vendredi sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de l'expatriation dans les pays du Golfe Persique. C'est vrai qu'avec la récession économique en Europe, s'expatrier pour les pays du Golfe, c'est devenu une option de plus en plus répandue pour des cadres, des sportifs de haut niveau. Bref, ce qu'on appelle des métiers à forte valeur ajoutée. L'embauche peut sembler facile quand on est détenteur de compétences, mais que faut-il comprendre et savoir sur ces pays avant de partir s'y installer? Nous allons en parler avec vous, Patricia Glaser. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de Berlitz Consulting, spécialiste de management interculturel, et vous organisez entre autres la formation de cadres pour l'expatriation partout dans le monde d'ailleurs.
C'est tout à fait.
Le plus souvent à la demande d'entreprises françaises.
Souvent, ce sont les entreprises qui sont sensibles à cette difficulté que vont rencontrer les individus dans leur développement à l'international, et donc elles interviennent très en amont, parce qu'au-delà des difficultés fiscales et tout ce qu'il y a de lié, il faut effectivement que la personne soit préparée à être dans un cadre qui n'est plus le sien.
Alors, évidemment, on vous demande plus souvent conseil quand on part s'expatrier dans le Golfe Persique ou en Asie que quand on s'expatrie dans l'Union Européenne. Ça peut sembler évident.
Et pourtant, on a de telles différences avec nos voisins les Belges, de telles valeurs et manières de voir le monde différentes avec les Espagnols, les Anglais ont une culture tellement différente de la nôtre qu'on rate beaucoup à ne pas comprendre la façon dont ils fonctionnent.
Ne serait-ce que pour travailler et faire des affaires. Stéphane Morel, vous vivez au Qatar. Bonjour Stéphane Morello.
Bonjour, oui.
Vous êtes arrivé à Doha pour travailler comme entraîneur de foot il y a presque 8 ans maintenant.
C'est ça.
Et puis vous êtes devenu enseignant et vous surtout, vous avez passé 5 ans au Qatar sans pouvoir quitter le pays à cause d'un conflit avec votre employeur qui détenait aussi votre permis de sortie nécessaire pour quitter le territoire. Vous avez raconté votre histoire dans un livre, Séquestré au Qatar. Je nous dirais ce que les candidats à l'expatriation peuvent retenir ou pas de votre mésaventure. Je ne sais pas si d'ailleurs le mot est bien choisi, vous l'acceptez ?
Oui, je le fais.
Expatrié dans les pays du Golfe, adaptation et précaution, c'est tout de suite chez 7 milliards de voisins. Commençons par votre histoire, Stéphane Morello, qui certes n'est pas l'histoire de tous les salariés français expatriés dans les pays du Golfe Persique, mais qui mérite un intérêt. Votre livre vient de paraître en librairie en France, Séquestré au Qatar. C'est une histoire à la fois simple et un véritable imbroglio juridique et politique. Vous êtes resté donc 5 ans sur le territoire qatari sans pouvoir en sortir, tout en continuant à être logé par votre employeur, le comité olympique. Vous aviez un passeport néanmoins.
Oui, je l'ai toujours et je l'ai conservé tout le temps de mon séjour à Doha.
Mais vous ne pouviez pas sortir parce que vous n'aviez pas le visa de sortie.
Exactement.
Alors aujourd'hui, vous êtes libre d'aller et venir, vous vivez toujours au Qatar.
Oui, à Doha.
C'est évidemment la question tout de suite que l'on se pose, quel que soit le conflit que vous ayez vécu avec les autorités ou avec votre employeur pendant ces 5 années. Ça peut sembler assez incompréhensible après tout ce que vous racontez dans votre livre, parce que vous avez vécu une époque très dure.
Je pense que je suis à l'image de tous les expatriés français qui sont au Qatar pour travailler. Chacun d'entre est libre aujourd'hui, demain et dans les jours qui viennent de regagner son pays ou de rester à Doha. J'ai fait le choix de rester à Doha. Mais il faudrait poser la question aux autres expatriés pourquoi ils le font. J'imagine que ce sont pour les mêmes raisons.
Quelqu'un qui vit un moment extrêmement difficile dans un pays n'a qu'une idée, c'est d'en partir une fois qu'il est libre de le quitter.
J'en suis pas certain. La preuve, c'est que je n'ai pas quitté le pays. Ça m'apparaît pas une évidence. J'aurais le dire d'une façon un petit peu différente. Si imaginez tout simplement l'endroit de vos rêves que vous partagez avec les gens que vous aimez. Vous êtes bien, si demain on ferme la porte à clé, vous verrez que l'endroit qui était un endroit où vous aimiez vivre deviendra vite un enfer.
Bien sûr, ça on peut le comprendre très aisément. Mais maintenant que vous pouvez finalement le quitter en toute liberté à tout moment, vous n'avez plus envie de le quitter.
Non, de la même façon que si je vous ouvre la porte, ben vous irez faire le tour du pâté de maison et vous retournerez à l'endroit où vous étiez.
Alors
bien.
Il faut préciser que vous avez un emploi à Doha, vous êtes employé du lycée français de Doha, vous avez un contrat qui court jusqu'en 2016.
C'est ça.
C'est aussi parce que vous avez cet emploi qui vous permet de subvenir aux besoins de votre famille que vous souhaitez rester ?
Oui, à double titre. Dans un premier temps, et bien évidemment, le métier d'entraîneur de foot m'est maintenant en quelque sorte interdit, étant sorti du circuit depuis plus de 5 ans, il s'avère extrêmement difficile de retrouver un emploi. J'ai donc pour subvenir aux besoins de la famille un unique emploi, qui est celui d'enseignant, que j'exerce, et j'entends évidemment pas l'hypothéquer par un éventuel départ. Donc je vais au terme de mon contrat.
Alors qu'est-ce qui vous est arrivé pendant 5 ans au Qatar ? Vous êtes arrivé pour occuper un emploi d'entraîneur de foot ?
C'était mon métier en France, je suis arrivé pour ça.
Vous aviez un bon CV d'ailleurs sur le sujet.
Oh, j'avais un CV qui me permettait de pouvoir aller travailler là-bas, effectivement. C'est pas le CV non plus de quelqu'un qui gagne la Coupe d'Europe tous les ans. Et pour des questions habituelles dans le monde du football, des désaccords entre un entraîneur et ses employeurs, j'ai été remercié, comme on a l'habitude de le dire. Et à l'issue de ce remerciement, j'ai souhaité regagner mon pays ou repartir. Et ça n'a pas été possible.
Pendant plusieurs mois, vous restez sans percevoir de salaire.
Oui, effectivement.
À ce moment-là, vous ne souhaitez pas repartir
quand
vous êtes remercié.
Mon dernier jour travaillé, c'est le 7 janvier 2009. Dès que le club me signifie sa volonté de ne plus continuer à collaborer avec moi, je vais donc vers mon employeur, qui est le comité olympique à l'époque, en disant, payez-moi ce qu'il me reste à percevoir de mon contrat.
C'est-à-dire
et on me devait 6 mois de salaire à l'époque. Et puis je quitterai le pays, puis je continuerai mon chemin comme je le faisais auparavant. Et on m'a opposé le fait qu'on voulait me donner simplement 1 mois de salaire. J'ai trouvé que c'était illégal.
Alors, si vous aviez accepté ce 1 mois de salaire et perdre 5 mois de salaire, vous seriez reparti dans la semaine.
Certainement.
Pourquoi vous avez refusé à ce moment-là ?
Tout simplement parce que on me devait 6 mois. Le principe du contrat à terme, c'est que vous engagez un employeur et un employé pour une certaine durée. À partir du moment où l'un des deux entend rompre le contrat, il lui appartient de dédommager l'autre partie. C'est un usage mondial, précisément dans le monde du foot. J'entendais faire respecter ce droit et le faire valoir au Qatar comme je l'aurais fait en France. Donc je reste par la force des choses. Ouais.
Vous saisissez la justice au Qatar.
Oui. Hein,
et vous demandez à percevoir vos mois de salaire impayés.
Je demande à la justice de trancher sur le fond du différend qui m'oppose au comité olympique.
Jusque-là, on est finalement sur une très banale affaire de litige en droit du travail, comme il y en a partout dans le monde entier. On est bien d'accord.
Oui, on est bien d'accord.
Et ensuite, que va-t-il se passer pour que vous restiez 5 ans sans pouvoir quitter le territoire du Qatar ?
Tout ce qui s'est passé, c'est qu'il est d'usage au Qatar, enfin en tout cas dans le monde du foot, peut-être un peu plus dans le monde du sport plus généralement, lorsque un contrat est rompu unilatéralement, de donner à l'employé 1 mois de salaire, 15 jours, 1 mois et demi, suivant l'envie de la personne, l'interlocuteur que vous avez en face de vous, vous devez prendre ce salaire et puis tourner les talons sans demander votre reste. J'avais pas envie d'abandonner mes droits, donc je pense qu'on m'a fait payer mon attitude, on me l'a signifié dès le départ. Tu auras 1 mois et tu partiras. Si tu demandes plus ou si tu fais quoi que ce soit, tu ne sortiras pas.
Ce qui est curieux, c'est que pendant ces 5 années, le comité olympique continue de vous loger. Vous habitez une maison dont le loyer est payé par le comité olympique.
Oui, mais il peut aussi difficilement faire autrement, parce que dans le même temps, il ne renouvelle pas mes papiers. C'est-à-dire que sans ID, sans document officiel, permis de résidence,
même pas louer une chambre d'hôtel.
Donc je suis en famille avec 3 enfants. Il est quand même extrêmement difficile de me mettre dehors alors que je le demande chaque jour à partir. En fait, j'ai ni le droit de partir ni le droit de rester.
Patricia Glazel, on a aujourd'hui plus de 3700 Français qui vivent au Qatar, d'autres dans le reste des pays du Golfe, qui viennent en général pour des opportunités financières et puis aussi de bonnes conditions de travail.
Et des besoins aussi, il ne faut pas le sous-estimer.
Oui,
bien sûr,
de ces pays-là.
En général, les bonnes conditions financières sont liées aux besoins que l'on a d'utiliser des compétences. Et ces compétences, on en a effectivement très besoin dans un monde qui bouge vite, où il y a peu de compétences. On sait pour les grandes entreprises que demain, c'est l'absence de gens formés qui va manquer au niveau monde. Donc, pas étonnant effectivement que dans des pays qui ont des populations pas très importantes, les besoins de compétences rapides, immédiats, soient très demandés.
Il faut redire peut-être au Qatar, la proportion d'habitants qatariens sur le territoire du Qatar, c'est quoi, Stéphane Morello ?
Ça doit être
250
10,
000.
Oui, 10-15%.
C'est ça. Donc forcément, il faut faire appel à des compétences à l'extérieur.
Voilà, il n'y a pas que des Français d'ailleurs.
Les pays du Golfe Persique sont des destinations aujourd'hui très prisées des expatriés.
Alors, prisées, il y a de gros besoins, du fait, bien sûr, du développement de ces lieux, des ressources en matières premières, de la demande aussi des États à développer leur pays, tant au niveau technique qu'artistique, on le voit, avec des implantations fortes. Donc, pas étonnant, évidemment, qu'on puisse regarder dans ces destinations. Et oui, les entreprises y sont très présentes, c'est sûr.
Ces expatriés n'ont pas vocation à s'installer durablement dans ces pays, non ? En moyenne, on reste combien de temps ?
En général, les entreprises vous parlent de 3 ans. C'est souvent la durée d'expatriation. Dans la réalité, c'est difficile de véritablement... Souvent, des gens qui ont une très belle expérience, qui ont établi des liens forts, vont peut-être pouvoir renouveler un contrat. Ça dépend un peu de la mission et puis du cadre de la politique de l'entreprise, effectivement.
Ce sont des missions, des contrats, des expatriations que l'on valorise facilement sur un CV ensuite ou pas ?
Dès que vous avez effectivement pu développer des compétences autres que de rester dans votre petit landerneau français, effectivement, elles sont valorisées à tout niveau. C'est sûr. Donc ça, effectivement, le parcours international reste très demandé. Et on le voit à travers l'expérience de Stéphane, hein, si je peux me permettre de vous appeler par votre prénom. J'ai adoré votre récit qui est vivant, votre livre est attachant et je trouve même qu'on peut dire que vous avez eu du courage de l'écrire.
Merci.
D'une certaine manière. C'est vrai qu'en le lisant aussi de par mon métier, qui est justement cet accompagnement, observer ce qui se passe et comprendre les mécanismes qui vont dicter des comportements. Je me suis dit, au fond, il faudrait peut-être que je demande aussi à Stéphane d'accepter qu'on établisse la liste des écueils que l'on peut rencontrer quand on part à l'international. Parce que dès le début de votre livre, quand vous dites que vous allez prendre un billet pour Dubaï, quand on vous dit que vous allez partir au Qatar, bon, c'est drôle et vous avez bien fait. Mais c'est en même temps révélateur de cette méconnaissance que l'on a.
C'est un autre émirat.
Absolument. Mais c'est souvent le problème que l'on va rencontrer. C'est l'idée qu'on va être sur un champ vierge où nos codes vont être appliqués, notre connaissance va être valide, alors qu'en fait notre connaissance ne devient qu'une petite partie d'un ensemble beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambigu, beaucoup plus difficile à comprendre. Et dans votre livre, je l'ai adoré parce que tout du long, il y a cette ambiguïté et j'avais moi envie de vous poser la question, est-ce que vous avez fini par comprendre ce qui s'est passé? Parce qu'on voit bien qu'il s'est passé quelque chose où vous n'avez pas les clés et qui va vous faire partir dans cette spirale difficile. Mais les clés sont ailleurs pour moi. Elles ne sont pas vous, puisque vous êtes encore dans ce pays. Donc ça prouve votre attachement à vous et peut-être la capacité aussi d'accueil, entre guillemets, de ce pays qu'ils ont bien voulu vous accorder. C'était plutôt une idée de détective qui s'est mise en moi à la fin, c'est de dire, mais est-ce qu'il a compris ce qui s'est passé? Il y avait quelque chose de complexe.
Vous
derrière.
Voulez la réponse?
Stéphane Morello.
Pas vraiment.
Oui, pas vraiment. Cette histoire là racontée par Stéphane Morello, donc une histoire vraie, hein, vécue au Qatar, elle aurait pu se passer aussi bien en Arabie Saoudite, dans les Émirats Arabes Unis, ailleurs dans le Golfe Persique.
Non seulement ailleurs dans le Golfe Persique, mais dans bien, bien d'autres pays. Dans plein d'autres pays dans le monde, on aurait pu avoir cette espèce de difficulté à décoder l'environnement. Vous aviez un employeur local. On voit bien que dans ces pays, et il y a beaucoup de pays dans le monde où, au fond, l'impact de l'État dans la vie quotidienne, parce que c'est ça le problème. Vous avez parlé, Emmanuel, d'une très banale affaire de litige. C'est plus du tout banal dans ces environnements-là. C'est que c'est plus un prud'homme. Dans votre livre, d'ailleurs, vous le citez à un moment, vous dites « Dans ces affaires, les sponsors qui procèdent au chantage sont des membres de la famille. » C'est le pouvoir.
De la famille royale. Alors, les sponsors, c'est ceux qui détiennent donc le visa de sortie.
Litige banal dont vous parlez, on est à un tout autre niveau du décodage.
Mais est-ce que ce genre d'histoire, vous, la spécialiste de l'expatriation, Patricia Glazel, vous en tenez compte dans la façon dont vous informez, dont vous formez les expatriés vers ces destinations-là?
Elle est au cœur de ce qu'on va mettre en place, justement. J'aurais adoré avoir monsieur Stéphane Morello en amont de son expatriation. Effectivement, quand il part, qu'il quitte tout, qu'il vend sa maison, qu'il prend son billet sans même savoir où il va, bah déjà, ça aurait mérité d'établir un mapping, on dit, de ce qui va se passer, où sont les enjeux, comprendre la réalité du pays, la fiscalité, le côté légal, les enjeux
Quels
de la
hiérarchie. Quels sont les droits des expatriés
les droits dont ils
ne disposent pas.
Absolument, entre autres. Donc oui, effectivement, parce que ces impacts-là sont lourds. Ils sont lourds à gérer au niveau individuel, ils sont lourds à gérer au niveau d'une entreprise, et on voit même, dans votre cas, au niveau d'un État.
Mais Stéphane Morello, dans le monde du foot, il y a énormément d'expatriés dans le monde du foot, dans le monde sportif en général, puisque ces pays du Golfe ont besoin de ces compétences-là. Vous aviez donc des amis qui étaient déjà partis?
Oui.
Ça vous a servi ou pas?
Non, pas du tout. Puisque j'ignorais tout du fait de l'impossibilité de quitter le territoire sans avoir l'autorisation de son sponsor. Et juste pour vous en dire sur ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, cette histoire aurait pu arriver dans tous les autres pays du Golfe, parce qu'ils partagent une communauté d'identité sur le plan culturel et sur le plan de la relation de l'employeur à l'employé, c'est une certitude. Sauf que un des problèmes essentiels et qui a été rendu possible ma captivité, c'est l'existence de la loi sur la kafala, qui n'est valable donc qu'en Arabie Saoudite et au Qatar, et qui n'a pas lieu
dans les Émirats Arabes Unis également. On va en reparler justement juste après le flash.
Dans certains pays asiatiques, pour certaines catégories.
Pas forcément aménagé tout à fait de la même façon, mais il y a des restrictions en tout cas pour quitter le territoire. Stéphane Morello, vous publiez Séquestré au Qatar. On en reparle juste après Wake Up El Nasser.
بص لنفسك في المراية تعرف للناس بتهرب الواقع يقرف اكبر بيت نفسك في الاوضه واشرب اطلع فوق في السماء اتسرسب واهرب الكهرب دور واخطب على نظام ابن وسخه رسم لك حياتك فتقبل تعيش بالشكل اللي هم عايزينه ده ملحد عشان مش عاجبه دينه بس مش بيضر الناس تشكلوا تجر شكلك غير شكلهم انت مش زيهم مش بتصر يا حسرة على مجتمع متبرمج فاهم انه حر بس الحقيقة ان اللي فوق بيحرك فكرك فاهم انك انت انت هما وهما انت بتكملوا الصورة الوسخة اللي وصلنا لها عرصولهم اكتر عشان صاحب الفكرة يسافر ويطبقها خون اللي عنده نخوة ما تقراش الفتحة للي مات في الثورة انزل انتخب وقف في الطابور وادفع رشوة خليك من البيت للشغل رايح جاي تركب المواصلة خليك نسخة زي باقي الطبقة ثابت مكانك غير قابل للتغيير والحركة اتفرج على التي في واقتنع من غير ما تفكر بس شاطر على الضعيف تتشطر اعمل سوي واتبع الامر الامر لله يعذب لما يكون لمصر امشي مع القطيع وانفخ في البوق والصبر المواطن عشوائية والامير في القصر حارس الخرفان وكلابه بتحمي الواقع انه الحرامي والحكومة جاب بتعوي افهم العبارة ده احنا الضحية دم الشهيد اللي راح في الثورة استفتاحية لإعادة السيناريو بطريقة وسخة مرة اكشن يا شعبك لكنت تاني مرة سافر يا مصري دور على الرزق برا البلد عايزه ولد والولد لسه في بطن امه ما اتولدش
Wake up, El Nasser, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons de l'expatriation dans les pays du Golfe Persique avec Patricia Glazel, spécialiste de l'expatriation et du management interculturel de Berlitz Consulting. Et Stéphane Morello, vous publiez Séquestré au Qatar. Vous nous racontez cette terrible aventure qui a duré 5 ans où vous n'étiez pas autorisé à quitter le territoire. Non pas faute de passeport, vous aviez un passeport, mais vous n'aviez pas votre visa de sortie. Stéphane Morello, plusieurs Occidentaux ont vécu la même situation que vous, plusieurs Français. Sont restés bloqués en même temps que vous, à la même période, faute de visa de sortie.
Effectivement, il y a eu un homme d'affaires à la Ouartani, Nasser à la Ouartani, qui était donc resté là-bas
coincé. Franco-jordanien, c'est ça ?
Oui, franco-jordanien, époux d'une collègue du lycée Bonaparte, qui était prof d'espagnol là-bas. Donc, il y a eu un problème avec son sponsor, Jean-Pierre Marongiou, chef d'entreprise, qui a rencontré un problème avec son sponsor aussi, qui est lui emprisonné encore aujourd'hui au Qatar.
Pour chèque sans provision et tentative de quitter illégalement le territoire.
C'est ça. Et il s'agit de Zahir Bellouni, ce footballeur, qui a rencontré, grosso modo, la même mésaventure que moi, dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons.
Des conflits, des dissensions dans des clubs de foot, ça arrive tous les jours.
Oui, ça arrive tous les jours, bien sûr.
Pourquoi, finalement ? Quelles sont les origines de ces dissensions ? C'est plus fréquent que quand on est cadre dans une entreprise, vous avez ce sentiment-là ?
Oui, c'est un peu plus fréquent.
Parce que ça tient à la particularité du monde du foot ou pas ? Parce que là, par exemple, vous êtes employé de l'école française à Doha, vous n'avez pas de conflit avec votre employeur.
Non, parce que...
Ça tient à ce métier si particulier de
Oui, ça tient à la configuration de l'exercice de la profession de footballeur et des conditions d'exercice de la profession d'entraîneur. Vous êtes lié en tant qu'entraîneur à l'obtention de résultats, donc à partir de là, vous connaissez ce qui se passe. C'est vrai, c'est tout aussi vrai dans le golf qu'ailleurs dans le monde. Quant à la particularité du métier de joueur, vous faisiez le parallèle avec le fait que je sois enseignant. Oui, je suis enseignant, je suis en charge
d'une salarié,
classe. Voilà, je suis en charge d'une classe de CM2, sauf qu'en début de semaine, on ne me dit pas, tiens, peut-être que la semaine prochaine, tu seras professeur remplaçant
si
ou professeur titulaire.
Si tes élèves ont des mauvaises notes,
voilà.
Ça,
alors que le joueur, bon, vous avez 20 joueurs dans un groupe, et il y en a 11 qui vont être sur la feuille de match le week-end prochain, et donc c'est ce qui fait qu'il y a une lutte au sein du groupe de joueurs pour arriver à pouvoir être titulaire, et ce qui
n'empêche pas de nombreux footeux de tenter leur chance dans les pays du Golfe.
Oui, bien sûr, bien sûr.
A fortiori au Qatar.
Partout dans le monde, mais précisément en ce moment au Qatar, parce qu'on en a parlé beaucoup, effectivement.
Voilà, parce qu'il y aura la Coupe du Monde en 2022, peut-être aussi.
Alors peut-être aussi, avant même qu'on l'ait attribué, il y avait déjà pas mal de gens qui venaient au Qatar.
Vous restez avec nous, Patricia Glazel, Stéphane Morello, 7 milliards de voisins. Retour dans 3 minutes, juste après le flash, expatrié dans les pays du Golfe Persique. Quelles précautions, quelles informations, nous en parlons donc juste après le flash sur RFI.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, les expatriés dans les pays du Golfe, adaptation et précaution. À l'occasion de la sortie de votre livre, Stéphane Morello, vous avez été retenu contre votre gré pendant 5 ans sur le territoire qatari. Vous étiez entraîneur de foot, puis ensuite vous êtes devenu enseignant à l'école française à Doha. Patricia Glazel, vous êtes directrice de Berlitz Consulting, spécialiste de l'expatriation et du management interculturel. Et nous sommes en ligne maintenant avec Lakshmi Lota. Bonjour.
Bonjour.
Lakshmi, vous êtes la correspondante de RFI au Qatar et nous allons revenir avec vous sur ce dont on parlait juste avant le flash, sur ce système de parrainage en vigueur au Qatar. C'est le système de la kafala. On parle aussi de sponsor. Qu'implique-t-il exactement ce système?
Alors, ce système oblige tout expatrié à dépendre d'un parrain qatarien pour pouvoir travailler dans le pays. On ne peut pas tout simplement venir s'installer comme ça dans l'émirat. Et cela concerne tout expatrié, pas seulement les travailleurs pauvres, les ouvriers asiatiques dont on entend beaucoup parler dans les médias. Il faut donc avoir ce sponsor ou parrain et celui-ci a beaucoup de pouvoir. C'est lui qui nous donne le droit de travailler, de conduire, il doit signer un papier pour ça, d'ouvrir un compte en banque également. Et ce qui pose le plus de problèmes, c'est le droit de sortir, car c'est toujours ce même sponsor qui nous donne le droit de quitter ou non le pays. Mmh. Le fameux exit permit, le visa de sortie, que cela soit pour un simple week-end, vous avez envie de partir à Dubaï, de partir en vacances, ou pour quitter définitivement le territoire. S'il veut nous bloquer, le sponsor le peut, même sans avoir de raison valable. Si vous avez une amende également pour excès de vitesse, par exemple, et que vous ne l'avez pas encore réglé, vous ne pourrez pas sortir non plus.
Ah oui, même si on quitte le territoire pour un week-end et qu'on revient et qu'on va payer l'amende juste après. Donc, il faut être complètement en règle.
Voilà, il faut être à jour, en règle, concernant tout ce qui est d'ordre financier, notamment. Et ce sponsor, il décide aussi si on peut changer d'employeur ou non. Il doit accepter de nous fournir un document qui s'appelle le certificat de non-objection. Pour les travailleurs pauvres dont je parlais tout à l'heure, une pratique courante, c'est aussi de confisquer les passeports, et même si c'est totalement illégal dans la loi qatarienne. Donc vous le voyez, Emmanuel, beaucoup de contraintes liées à ce système de parrainage. Alors si ça se passe bien avec votre employeur, pas de problème, mais en cas de conflit, ça laisse quand même beaucoup de moyens de pression entre les mains de votre patron.
Alors Lakshmi, face aux nombreuses critiques de la communauté internationale, surtout depuis l'attribution de la Coupe du Monde de football au Qatar pour 2022, le pays a annoncé une réforme de ce système de la kafala. Où est-ce qu'on en est? Ce sont des promesses ou une réalité sur place?
Le Qatar a effectivement promis l'an dernier des grands changements, la disparition carrément du système kafala d'ici la fin de l'année. Sauf que la fin de l'année, c'était l'année 2014. Et depuis, aucun changement, aucune réforme de la loi. Alors régulièrement dans la presse, ici, on lit des déclarations du Premier ministre qatarien ou du ministre du Travail qui promettent encore la réforme pour bientôt et qui expliquent, se justifient, changer une loi. Cela prend du temps. Je pense qu'il faut quand même expliquer, Emmanuel, pourquoi ce système est si important pour les Qatariens, pourquoi il leur est difficile finalement d'y renoncer. Imaginez, dans votre pays, plus de 90% d'étrangers, les Qatariens sont 200 000 à peu près sur une population de 2,3 millions d'habitants. Ils veulent donc pouvoir contrôler les allées et venues sur leur territoire. Ils ont aussi un exemple assez fâcheux chez leurs voisins, Dubaï. En 2008, au moment de la crise économique, de nombreux expatriés là-bas se sont enfuis du pays en laissant leurs dettes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette fameuse réforme annoncée est plus un simulacre de changement qu'autre chose. Il ne faut pas s'attendre à de grandes révolutions. On joue sur les mots. Par exemple, le visa de sortie du territoire ne sera pas supprimé. C'est le gouvernement qui donnera cette autorisation de sortie à la place de l'employeur. On ne pourra donc toujours pas se déplacer librement. Le système de parrainage, quant à lui, sera remplacé par un contrat de travail, sauf que celui-ci empêchera toujours l'employé de pouvoir changer d'employeur librement. Il devra attendre 5 ans pour pouvoir le faire. Donc, vous le voyez, on change les mots par d'autres, mais dans le fond,
la réalité risque de rester la même. Pourtant, d'autres pays, Lakshmi Lota, dans la région, dans le Golfe Persique, ont fait disparaître ce système.
Alors oui, c'est uniquement le cas pour Bahreïn. Dubaï aux Émirats Arabes Unis et le Koweït ont simplement, eux, atténué certaines mesures comme l'obligation du visa de sortie. Donc pas besoin de ce visa de sortie là-bas.
C'est précisément le visa de sortie qui pose le plus de problèmes, sauf si évidemment on conserve votre passeport. Merci beaucoup Laxmi Lotha. Je peux vous poser peut-être une dernière petite question. Votre sponsor à vous, alors, qui vivait à Doha, qui c'est ?
Alors moi, c'était mon mari.
D'accord, très bien. Bah oui, effectivement. Alors, faut peut-être préciser, Stéphane Morello, que vous, par exemple, vous êtes le sponsor à Doha, puisque vous vivez toujours à Doha. Vous êtes le sponsor de votre épouse.
Mais je ne le suis plus, mais je l'ai été longtemps.
D'accord. Et alors, qui est le sponsor de votre épouse aujourd'hui ? Elle a un employeur ?
Son employeur.
D'accord. Mais vous l'avez été longtemps, ce qui veut dire que, par exemple, si votre femme vous quittait du jour au lendemain, que vous êtes furieux, que vous voulez vous venger, vous pouviez l'empêcher de quitter le territoire.
Oui, bien sûr.
C'est arrivé. On a vu des histoires comme ça.
Hein, on l'a vu. J'avais la possibilité de l'empêcher de quitter le territoire.
Patricia Glazel, est-ce que les expatriés sont parfaitement informés de toutes ces règles, de toutes ces lois qui sont quand même assez compliquées et puis difficiles aussi à imaginer quand on vit en Europe ?
C'est vrai, et c'est peut-être notre erreur de rester très ethnocentré. C'est vrai que on s'est beaucoup battu dans nos sociétés pour faire évoluer les choses, et peut-être que l'évolution qui a eu lieu dans nos sociétés ne sera certainement pas celle qui aura lieu dans d'autres pays qui n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes façons de voir. Mais on voit bien que on a absolument besoin de se décentrer, et c'est vrai que les entreprises ou les individus devraient avoir l'obligation, ils l'ont quelque part, d'être informés des lois appliquées dans le pays, hein, qui reste valide et qu'on peut que très difficilement contourner, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit en accord avec ou pas. Et donc, tous ces éléments de sûreté, de lois appliquées, d'enjeux, doivent être effectivement considérés à un moment donné de l'expatriation. Alors, on le faisait sur le tas, j'ai envie de le dire, et à ses dépens, dans bien des cas. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une meilleure conscience, mais il y a encore énormément de travail pour dire le champ de jeu de l'international, et on comprend bien qu'il est, il est pas du tout évident à appréhender. On a besoin d'outils, on a besoin de connaissances, on a besoin éventuellement d'accompagnement, et puis après on a besoin de faire sa propre expérience, évidemment.
Mais alors, évidemment, dès lors qu'on part pour une entreprise française ou une multinationale, le fait que son employeur soit également son sponsor et détienne le visa de sortie, hein, le permis de sortie du territoire, ne pose pas réellement de problème, même si on est en conflit avec son employeur.
Ne sous-estimez pas le nombre de conflits avec des employeurs que rencontrent les expatriés. On parle quand même de 60% de personnes qui désirent quitter leur employeur au retour. Ça veut dire que ça s'est mal passé à un moment donné, quelles que soient les destinations. Et pour fréquenter de près les grands groupes français, je peux vous dire que tous les jours, ils s'arrachent les cheveux pour être en compliance, hein, c'est-à-dire en accord avec les lois des pays, la fiscalité des pays, et chaque décision prise, ne serait-ce que envoyer quelqu'un pour un transfert technique dans un pays comme le Brésil, n'est pas du tout une mission simple. C'est une mission qui est anticipée, travaillée, évaluée avec des fiscalistes, des avocats, parce que justement, à chaque détour, il y a des lois que l'on ne connaît pas, il y a des applications que l'on méconnaît, il y a des choses attendues dans le pays et qu'il faut avoir prévues en amont, et parfois ça empêche la mission ou l'expatriation, ça la retarde. Donc les choses sont pas si simples, et au contraire, je peux vous dire que c'est extrêmement complexe. C'est des équipes entières qui sont effectivement tournées vers cela. Alors évidemment, quand on part comme Stéphane seul, la question est d'autant plus prégnante. C'est comment on fait, d'où l'importance d'être encore plus préparé.
Parce que quand vous signez ce contrat avec le comité olympique en tant qu'entraîneur, il n'y a pas un avocat à côté de vous qui relie le contrat.
Non, bien évidemment. Il était en anglais et traduit en arabe. Il était en double face, anglais-arabe. C'est assez facile à lire. Mais surtout, c'est un contrat à terme, donc j'imagine qu'il est valable comme partout ailleurs dans le monde, et je me pose pas de questions, j'ai pas de... pas suspicieux à l'époque, quoi.
On sait très bien qu'un contrat de détachement ou d'expatriation vous relie à votre siège national. Donc on dirait que si vous aviez eu un véritable contrat d'expatriation, vous seriez encore français, et rattaché à une jurisprudence française. C'est vrai que des contrats locaux méritent d'être beaucoup plus observés.
Les salaires sont bons au Qatar, pour les expatriés en général. Les procédures, de licenciement sont expéditives, puisque c'est ce qui s'est passé avec vous. Ça l'était peut-être encore plus parce que c'était le milieu du foot.
Un peu plus dans le monde du foot qu'ailleurs, oui, c'est vrai. Donc là-dessus, pas de surprise. Beaucoup plus que la loi qatari, notamment celle sur la kafala, qui m'a été opposée pour sortir du territoire. Ce qui m'a posé problème, c'est justement le non-respect de cette loi. Empêcher quelqu'un de sortir du territoire, ça s'appelle au Qatar un travel ban. Traduit de l'anglais. quelqu'un qui est frappé d'un travel ban est une personne qui répond à un certain nombre de critères. C'est une mesure qui est prise pour se prémunir de la fuite de quelqu'un contre qui une action en justice aurait été menée. De la fuite de quelqu'un qui ne serait pas en règle vis-à-vis de des dettes qu'il a auprès d'une banque ou d'un créancier quelconque et qui entendrait ne plus revenir. Ça répond donc à un certain nombre de critères. Quelqu'un qui serait poursuivi en justice, contre qui il y a une plainte, contre qui il y a d'éventuelles poursuites, une condamnation ou une peine à purger.
Mais c'est pas votre cas, vous n'avez
aucune... Ce n'était pas mon cas. Que la loi qatari, que la loi sur la kafala soit contraignante, c'est une chose, mais ce qui est encore plus contraignant, c'est quand elle ne vous est pas appliquée.
C'est-à-dire quand on prend le prétexte de cette loi-là pour vous empêcher de sortir, alors que vous ne faites l'objet d'aucune procédure judiciaire, d'aucune plainte en justice. Alors qu'on aurait pu, par exemple, porter plainte contre vous parce que vous habitiez cette maison dont vous ne payiez pas le loyer, qui était le logement offert par votre employeur pour lequel vous ne travaillez plus, par exemple. Mais votre employeur n'a jamais tenté d'intenter une plainte en justice, par exemple, là-dessus, ce qui prouve bien que c'était pas clair.
Porter plainte contre moi parce que j'occupais une maison, je veux dire, c'est dans la loi qatari que le sponsor se doit de vous loger. Donc à partir du moment où je suis sponsorisé par quelqu'un et se doit de me loger, moi je demande à ne plus être sponsorisé à partir. Me loger est une obligation, surtout dans la mesure où on peut le faire autrement.
Mais dans le fond, qu'est-ce qui vous laisse penser aujourd'hui que votre combat a eu un sens pendant 5 ans ?
Le sens de la justice, tout simplement. Moi je reviens pas sur le jugement qui a été rendu par la justice qatari. La justice qatari a rendu un jugement, il m'appartient pas de le commenter. C'est la formule consacrée. Donc elle a jugé de façon autonome et je ne reviens pas là-dessus. C'est terminé. Ce que je refuse d'admettre, c'est d'avoir été empêché de sortir et qu'on ne m'ait pas laissé de quitter le territoire, c'est
alors,
ça ?
Au départ, vous réclamez 5 mois de salaire que votre employeur refuse de vous payer, contrairement à ce qui est dans le contrat. Mais après, effectivement, vous restez parce que vous souhaitez obtenir une réparation de ces 5 ans d'interdiction de sortir du territoire. Est-ce que c'est réaliste aujourd'hui, finalement ?
Non, la chronologie, c'est pas ça. Je reste en demandant ces 5 mois, mais je reste parce que je ne peux pas sortir et j'obtiens pas ces 5 mois. Une procédure judiciaire est en cours et c'est cette procédure judiciaire que on entend me faire payer. C'est au bout de 5 ans, lorsque je peux sortir, que je veux demander une indemnisation pour ces 5 années où j'ai été retenu. Mais avant de sortir, avant d'avoir été libéré, à aucun moment j'ai intenté une action. J'ai simplement demandé à corps et à cri de pouvoir quitter le territoire, de pouvoir être libre de mes mouvements. C'est une fois que j'ai été rendu libre de mes mouvements que j'ai souhaité intenter cette action et c'est précisément pour les conditions dans lesquelles je recouvre cette liberté et contre ces conditions que je m'insurge.
Mais il y a de nombreux Occidentaux qui ont un litige dans les pays du Golfe avec leur employeur et dès que ça se gâte, ils prennent ce qu'on leur propose et qui partent immédiatement.
Oui, mais
ils
veulent
partir parce qu'ils sentent bien qu'ils n'obtiendront pas gain de cause dans des pays qui ne sont pas démocratiques, où il n'y a pas d'indépendance de la justice, où le droit du travail n'est pas forcément respecté.
Oui, j'aurais bien aimé le faire, mais sauf qu'à partir du moment où je me suis insurgé, ça n'était plus possible. À partir du moment où j'ai saisi la justice locale, il fallait me faire payer cet acte de rébellion, il fallait me faire payer le fait de ne pas avoir accepté ce qu'on me proposait, il fallait que je paye cet état d'esprit. Et je l'ai payé chèrement, je crois même que j'ai dû être oublié au bout d'un moment.
Pour un expatrié, intenter une action en justice dans ce type de pays, c'est très risqué selon vous, Patricia Glazel ?
Je reviendrai sur mes premiers propos, c'est surtout courageux d'une certaine manière. Très risqué, ça a des implications que l'on voit. Bien sûr qu'il y a toujours un risque à s'insurger contre des pouvoirs en place, contre des organisations où on maîtrise pas du tout, où on est accompagné par quelque chose que l'on comprend pas vraiment. Et d'une certaine manière, effectivement, on préfère, comme vous le notiez, partir en général, un terme est mis au contrat. Maintenant, c'est intéressant de voir qu'on peut aborder le sujet autrement et peut-être le gérer localement. Mais c'est vrai que, du coup, on accepte que nous échappent beaucoup de donnes. Je dois dire que déjà dans nos pays, comme vous le disiez, les donnes de la justice ou bien des enjeux d'une organisation peuvent nous échapper. Et là, je pense qu'on démultiplie le fait qu'on maîtrise plus grand chose de ce qui se passe. Et l'idée que vous ayez été oublié me semble tout à fait plausible à un moment donné.
Avant que votre histoire ne revienne dans la lumière des médias et donc dans la lumière du pouvoir politique, notamment du gouvernement français. Nous y revenons dans quelques instants, juste après. FOCAC chez 7 milliards de voisins, avec notamment des conseils aussi à donner aux expatriés qui s'apprêtent peut-être à vivre une expatriation dans les pays du Golfe Persique.
بين عربي الفاشل بينهم غرب الامل بينهم اتصابت ادبهم لغيرهم صابت على وش الحد ضرب مش مسألة حظ صابت كلامي او المبادئ ايماني
عليه كتر الفن عليا قبض لما حس كلامي قرض كله بصص علي جيب البنت عشان كده جيب البنت قفض ودلوقتي وسع لي اسمعني من صدري من صدري لأهلي إيماني بيهني
صدك من اللي انت فيه هقولك ايه الجديد هنجيبلك مزيكا ليك هتشدك ما فيهاش تقليد فكك من اللي انت فيه هقولك ايه الجديد هنجيبلك مزيكا ليك هتشدك ما فيهاش تقليد
بالروز حامكين عملوا كلام ظهروا بين كلام بفت فتحوا الابواب والوقت اتحسم والمشوار اتلسم بالورقة والقلم ونزلت ختم على فكرة مزيكا انكو بريئة جيتو كحلوها قلبتوها حريقة بلوم للأسف لقل للأدب والفن اتحسب وانتو السبب المزيكا بقى فاشة طريقة تدي زوبة شقة انا اتبع الزحمة لقل لزوقة جهل وللموجة راكب وسط الهوجة فارس جاي بالفلو يبان لو عايز رابر دارس ناديني زي مريم فارس الاسفاف ناسف لكل دماغ ناشف بالكاد حاسس ونفس الاحساس اسف بس التوبال الراب عالمشارف
Focac chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons de l'expatriation dans les pays du Golfe Persique. Conseil et également précaution peut-être avant de projeter un projet d'expatriation dans les pays du Golfe Persique. On en parle avec vous, Patricia Glazel, directrice de Berlitz Consulting, spécialiste de l'expatriation, du management interculturel, et Stéphane Morello, à la lumière de ce qui vous est arrivé et de ce que vous publiez, séquestré au Qatar. Alors je précise, vous nous avez raconté ce que vous avez vécu, empêché de quitter le Qatar pendant 5 ans faute de visa de sortie, non pas faute de passeport, hein, mais il faut ce fameux visa de sortie qui est détenu par le sponsor, donc l'employeur. En l'occurrence, pour vous, c'était votre ex-employeur, puisqu'entre-temps, vous aviez trouvé un autre employeur pour pouvoir bénéficier à nouveau d'un salaire. Il s'agit du lycée français, l'école française de Doha, et votre employeur avec qui vous étiez en litige, donc c'était le comité olympique, comme entraîneur de football. Avec le recul de ce que vous avez vécu, quels conseils vous pourriez donner à des expatriés qui prennent un poste dans une entreprise?
De consulter Patricia.
Non mais plus sérieusement.
C'est une histoire personnelle, il ne faut pas ériger un cas particulier en modèle d'expatriation. Il y a des tas de gens qui s'expatrient au Qatar, même dans le football, ils reviennent de leur expatriation avec des regrets, ils ont passé un bon moment là-bas, les choses se passent très bien, donc il ne faut pas faire d'un cas particulier une règle générale. C'est une destination qui peut être épanouissante, où des gens peuvent trouver ceux qui sont venus y chercher. Bien évidemment, il faut être au courant des lois, avoir un petit aperçu de ce que peut être la culture locale et de la nature des relations qui peuvent s'établir entre l'employeur, l'employé et précisément entre le sponsor et le sponsorisé qui sont pas toujours les mêmes personnes. À partir de là, c'est une conviction personnelle qui va faire qu'on choisit de partir ou pas.
Mais vous ne regrettez pas vous-même au premier salaire impayé d'avoir attendu que la situation pourrissent en quelque sorte.
Avec le recul, peut-être un petit peu, mais si je me replace dans le contexte de l'époque, c'est au mois de janvier, j'ai mes enfants qui sont scolarisés, partir comme ça en plein milieu de l'année, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, c'est déstabilisant pour l'ensemble de la famille. Je suis pratiquement certain de pouvoir faire valoir mes droits, puisque des lois existent, un tribunal existe, un contrat existe.
Et que vous êtes français, donc vous avez grandi dans cette idée-là aussi.
Oui, je suis imprégné de cette idée de droit, et je suis persuadé que les choses vont s'arranger.
Aujourd'hui, vous vous êtes dirigé vers la justice française.
Oui.
Ouais. Où est-ce que vous en êtes, ça? Vous avez saisi la justice française, le tribunal de grande instance de Paris?
Oui. Les chaînes d'occupation, ils sont diverses, mais celui qui est à retenir, celui sur lequel la juge d'instruction instruit actuellement, c'est précisément extorsion de signature, donc faux en écriture privée. Il y a aussi escroquerie, recel d'escroquerie et un ou deux chefs d'inculpation que j'ai plus encore en tête.
Ce qui veut dire que vous, en fait, vous portez plainte, vous avez saisi la justice française contre votre employeur, mais sachant que le comité olympique est dirigé par l'émir du Qatar, vous portez plainte d'une certaine façon contre l'émir du Qatar, tout en vivant toujours au Qatar avec votre famille.
C'est un raccourci que je ne ferai pas.
Oui.
D'un point de vue pénal, je porte plainte contre X. Si je devais porter plainte contre une personne morale, ce serait effectivement le comité olympique dont le président était à l'époque l'émir actuel Tamim. Mm. Je suis effectivement extrêmement embêté de savoir que le président de cet organisme-là, c'est l'émir actuel. J'aurais préféré qu'il vende des kebabs, ça aurait certainement posé moins de problèmes. Mais encore une fois, ce n'est pas contre l'émir Tamim que la plainte est déposée, c'est contre le comité olympique s'il devait être poursuivi. Et l'émir Tamim le serait ex-qualité.
D'accord, mais néanmoins, vous sortez ce livre-là, alors que vous vivez encore au Qatar, c'est un véritable brûlot. Certains vont parler de provocation, forcément, même si on comprend bien que ce qui est arrivé n'est pas normal.
Oui.
Vous acceptez le mot provocation ?
Je ne pense pas que ce soit une provocation. Je rappelle.
Non, mais quand on lit votre livre, on se dit, mais jamais je ne mettrai les pieds au Qatar. Enfin, n'importe quel lecteur va se dire ça.
Alors, Emmanuel, moi, ça m'a donné envie.
Non, moi,
si je peux me permettre. Effectivement, au contraire, j'ai trouvé que c'est un environnement qui a l'air passionnant, riche, avec plein de possibilités.
Alors, vous racontez des très beaux week-ends dans le désert.
Des superbes week-ends, mais même les interactions restent passionnantes. Encore une fois, je le répète, il y a des éléments qui vous ont échappé. Il y a peut-être encore les deux années que vous allez passer en plus, trouver l'origine des raisons. On voit dans votre livre d'ailleurs qu'il y a des acteurs qui ont envie de vous en parler, mais dans vos comportements, ils peuvent pas aller plus loin. Et c'est évident que n'ayant pas pris en compte cet environnement neuf dans lequel vous étiez, inconnu, il y a eu certainement des faux pas, des incompréhensions, et je ne suis pas là pour juger ni d'un côté ni de l'autre ce qui a pu se passer. Mais ça, il n'en reste pas moins que c'est un monde passionnant que vous décrivez. Vous avez réussi à me donner 5 minutes envie de mieux comprendre le monde du foot, en plus. Et je reviendrai sur quelques aspects simples. C'est ne pas partir en terrain vierge quand on part à l'international. Surtout pas bien comprendre qu'on a affaire à des enjeux beaucoup plus complexes que ceux pour lesquels on a été organisé dans notre tête, dans notre façon de faire, et qui ne sont pas les mêmes et qui ne seront certainement jamais les mêmes. Hein, je regardais, suite à la lecture de votre livre, que Charlie Chaplin, en 1952, est tout de même banni. Il n'a plus de passeport et n'a plus de visa pour rentrer aux États-Unis. Donc ça ne se passe pas non plus que dans les pays du Golfe. Et c'est une réalité à un moment donné dont il faut être conscient, que quand on part, on n'est pas seul non plus. Vous soulignez les enjeux familiaux, c'est évident. Et pourtant, ça paraît...
Qui complexifie les décisions,
qui complexifie
du coup,
tout. Hein. On est beaucoup plus lourdement chargé. Donc, j'ai trouvé que vous vous en étiez plutôt remarquablement sorti, parce que vous restez assez attaché à ce pays, et de ne pas avoir justement une forme de rejet du pays. Vous l'avez bien dépassé, et je pense que vous... Dans quelques années, vous adorerez cet environnement, enfin si c'est pas déjà le cas. Et donc vous l'avez plutôt très bien mené au niveau psychologique. Et peut-être que le fait d'avoir affronté ces contradictions plutôt que d'avoir fui était encore une fois un réflexe intéressant que vous avez pu vous permettre et que n'importe quel expatrié ne pourrait pas se permettre parce qu'on lui aurait demandé de rentrer. Vous avez fait un choix personnel. Hein. Donc ça, je trouve encore une fois que c'est assez courageux. Et puis, la prochaine fois que vous partez, effectivement, et c'est pas difficile de se tourner vers des gens qui vivent là-bas, qui ont déjà vécu. Je parle bien sûr aussi des chambres de commerce, je parle bien sûr des réseaux des conseillers, des gens qui valent ce qu'ils valent, mais parfois on entend 2, 3, 4 sons de cloche qui vous permettent, au-delà de la formation et de l'accompagnement, qui est une démarche que je souhaiterais à tout le monde, mais qui n'est pas systématique, de vous construire une représentation plus réaliste que votre monde, qui n'est pas du tout le vrai. Où que ce soit.
Néanmoins, ça n'est pas simple dans ces pays-là, parce que, pour reprendre l'exemple du Qatar, mais d'autres pays dans le Golfe Persique, pas tous, mais c'est difficile d'avoir des amis qatariens, et pour cause, ils sont très peu nombreux.
Il y a plein d'autres expatriés. On n'a pas obligé de passer par le local pour le comprendre. Au contraire, d'ailleurs, une vision extérieure est parfois encore plus riche et plus intéressante. Donc, le réseau des internationaux en France, qui existe, qui est structuré par notre État, et que je suis la première à reconnaître, a sa validité, et c'est dommage de pas s'en servir.
Stéphane Morello, en fait, le seul moment dans votre livre où vous parlez des Qatariens en dehors de la haute administration à laquelle vous heurtez, c'est quand vous passez des week-ends dans le désert avec un collègue pour aller pêcher en mer intérieure. C'est bien cela.
Oui, j'en parle aussi à l'occasion du mariage. J'ai eu d'excellents amis qatariens que je continue à avoir et je voudrais revenir à la question que vous me posiez et puis à l'avis que vous aviez concernant le livre. C'est pas un brûlot contre le Qatar. Je crois que au travers de certaines pages, on peut voir que j'ai pu avoir un certain attachement avec les Qataris, que certaines personnes sont d'une compagnie extrêmement agréable, qu'effectivement il y a certaines clés en termes de comportement, en termes de relations que j'ai peut-être pas su tourner à des moments donnés. Mais le pays demeure un pays agréable sous bien des aspects. Avec un certain nombre aussi de contradictions et puis de problèmes qui subsistent. Mais en dehors de ces épisodes de pêche qu'il pouvait y avoir le week-end, j'ai vécu aussi des choses
assez intéressantes.
Parce qu'on
oublie de dire que les Qatariens adorent passer le week-end dans le désert et revenir sous la tente, finalement.
Oui,
c'est
oui,
un
bien
peuple
sûr.
De Bédouins qui aiment profondément revenir dans le sable.
Oui, et qui aiment pratiquer la loi du désert. On y trouve une certaine entraide, on y trouve une fraternité qui est à milieu de ce qui se passe à quelques dizaines de kilomètres pourtant.
Stéphane Morello, vous comptez quitter le Qatar à la fin de votre contrat avec le lycée français en 2016?
C'est une question que nous nous poserons en famille. Comme tout déménagement, c'est une décision qui ne se prend pas seule, qui se prend en famille. Les enjeux dépassent mes propres intérêts. Vous m'aviez posé tout à l'heure la question de savoir pourquoi j'étais encore au Qatar et j'avais pas pu y répondre complètement. Il faut dire que lorsque je suis arrivé au Qatar, mes enfants avaient 3, 4, 10 ans. Mmh. Bon, maintenant, ils ont 7 ans de plus, les uns et les autres. Pour chacun d'entre eux, ils ont leurs repères, ils ont leurs amis, leurs habitudes, leurs cours de musique, de sport. Ils se sont habitués à cette vie. Chez eux, c'est là-bas. Mmh. Et je pense qu'il a été assez difficile de pouvoir préserver les enfants de ces problèmes pendant 7 ans. Tant bien que mal, on est parvenu à le faire. Donc, il n'était pas question pour un coup de tête ou sur simplement une envie de tout quitter, de remettre en cause leur équilibre. Ils sont là-bas et puis ils participent de la décision qu'on prendra. Pour l'instant, ils ont envie d'y rester. Je pense qu'on va y rester.
La sortie du livre ne vous inquiète pas outre mesure quant à votre situation sur place au Qatar ?
Si, elle m'inquiète. Bien sûr que j'ai peur des répercussions possibles.
Néanmoins, vous avez souhaité publier ce livre alors que vous êtes encore au Qatar.
Oui, si on doit à chaque fois agir en fonction du fait qu'on ait peur ou pas, à ce moment-là, on va plus faire grand-chose non plus.
Merci à vous d'être passé dans le studio des 7
plaisir.
Milliards de voisins. Stéphane Morello, séquestré au Qatar, c'est publié aux éditions Max Milo et affaire à suivre donc avec la justice française qui a repris le dossier. Patricia Glazel, directrice de Berlitz Consulting, spécialiste en management interculturel. Merci à toute l'équipe, Éléonore Krenik, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, reportage à Abidjan sur ces enfants et ces jeunes que l'on appelle les microbes. Ils agressent, ils volent, ils terrorisent la population dans certains quartiers de la ville. Ils ont été les instruments politiques des différentes crises en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le pouvoir aimerait se débarrasser de ce fléau urbain, mais emploie-t-il les bonnes méthodes ? Ne manquez pas ce reportage au cœur des ravines d'Abidjan avec de nombreux témoignages. Enfants violents, enfants victimes, que faire des microbes ? C'est demain chez 7 milliards de voisins à 10h10. Temps universel.